Alors, bonjour Serge, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Donc, vous êtes ici parce que vous nous torturez les méninges avec les deux tomes parus sur
Ça
quatre
commence
de la
bien.
série Masqué. D'ailleurs, je remarque que Stéphane a mis un masque de catcheur mexicain.
Ah bon?
Ça a quelque chose à voir avec votre œuvre? Vous avez une
Mais
revendication quelconque?
c'est son vrai visage.
C'est mon vrai.
C'est ton
Je me suis
vrai.
mis de l'encre sur le
C'est
visage ou
son
quoi?
vrai visage. C'est ton vrai
Non.
moi en fait.
Ouais, non, là, je me suis grimé. Je suis venu dans un pays de sauvages. Mais non, oui, je représente là, je fais.
T'es en train de sous-entendre qu'on est encore sous une république bananière?
Exactement.
Alors pour parler plus sérieusement, le tome 2 est sorti il y a quelque temps où vous continuez pour ainsi dire la suite des aventures quelque peu rétro-futuristes d'un super-héros en devenir. Le tout dans un contexte, je dirais pas, parce que ça ne te ferait pas honneur, j'allais dire un contexte un peu à la Marvel. Mais ou plutôt tu continues ton analyse que tu avais entamée avec la Brigade Chimérique par rapport au potentiel des super-héros et à leur place finalement en Europe.
Oui, c'est un work in progress, c'est-à-dire que. Étrangement, moi j'ai toujours, dès le départ, dès que m'est venue l'idée concrète de la Brigade Chimérique, je me suis toujours dit c'est le chaînon manquant, c'est-à-dire c'est la pièce du milieu. La pièce du milieu, ça veut dire qu'on raconte la fin d'une période débouchant sur un oubli, un refoulement. Historique, culturel en Europe, les années 40, la guerre, le nazisme et tout le discrédit culturel et l'impossibilité de penser ces thèmes après la guerre. C'est la pièce du milieu parce que c'est la fin d'une période et que le fait de la montrer, de la vivre à nouveau de façon esthétique, permet de se réarrimer à cette période. Et donc ça peut être aussi le début de quelque chose. Et en fait, ce pari-là, qui était un pari non pas éditorial mais culturel, a été. Pour l'instant, partiellement gagné, puisque on continue d'explorer à la Talente le monde archétypal des années 1910 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et on fait chez Delcourt cette série qui, en fait, est le premier maillon de la nouvelle chaîne. Donc on explore l'amont aussi bien que l'aval. Et c'était vraiment le but, c'était l'idée de créer un chaînon manquant, ou de montrer plutôt qu'il y a un chaînon manquant, en montrant de supprimer cette espèce d'inhibition culturelle qui nous frappait sur le thème des super-héros, mais finalement la question des super-héros, c'est la forme concrète du problème. La question c'est celle de est-ce qu'on peut être une civilisation sans mythologie? C'est ça le problème.
Alors justement, avec deux tomes parus sur quatre, je dirais, on assiste toujours à la mise en place finalement d'un univers, d'un contexte. La série étant prévue pour être complète en 4 tomes, est-ce que le tempo justement va s'accélérer par rapport aux deux derniers tomes? Est-ce qu'on va avoir droit à un véritable feu d'artifice? Ou au contraire, un peu comme je le pense, est-ce que tu vas continuer à avancer à ton propre rythme? Et ça sera un peu à nous, en tant que lecteurs, de comprendre là où tu voulais nous emmener, mais uniquement à la fin.
Non, c'est assez pédagogique en fait.
Didactique.
Comment dire, le tempo narratif s'accélère, c'est-à-dire qu'on va vers un pic de crise qui occupe pratiquement tout le tome 4.
3.
Tout le tome 4.
Ah.
La crise commence vraiment au tome 3, mais le tome 4 c'est un feu d'artifice de la première à la dernière page, du moins on l'espère. Et quant à savoir ce que j'ai voulu faire ou dire, ça devient, je pense, avec les albums et les années assez transparent. Et on va assez loin dans le. Non pas dans le didactisme, parce que j'ai horreur de ça, mais dans la formulation des choses dans le tome 4. Il y a vraiment des dialogues et des scènes qui disent ce qu'on est en train de faire, qui invite le lecteur à participer à ce processus en conscience. La difficulté étant que c'est comme la prestidigitation, c'est moins marrant si tu montres comment tu fais ton tour. C'est moins séduisant. Donc il faut à la fois, on est des auteurs postmodernes, qu'on veuille ou non, ou bien après tout le monde, on travaille un matériau qui est connu, codifié, donc on joue avec tout ça. Et en même temps, on fait on dit, c'est très difficile parce qu'il faut que le lecteur se fasse avoir avec plaisir, tout en sachant que quelque part, on s'adresse aussi à sa culture, à son intelligence, en lui disant, regarde, tu es dans l'histoire, mais tu es aussi en train de regarder l'histoire du dehors, t'amuser avec quelques objets culturels. C'est toutes ces choses-là qui sont les tensions narratives et esthétiques de masquer. C'est hyper intéressant à faire.
Alors justement, vu qu'on parle de plaisir, vu qu'on parle d'histoire, je vais me tourner vers notre catcheur mexicain. Avant qu'il aille se jeter dans la foule déchaînée qui hurle au loin.
Sans aucun problème,
le fait qu'il est,
je suis déjà tout nu.
Ah non, moi je te voyais plutôt en train d'aller graffer justement sur la totalité de la façade de l'UGC Cinécité Bercy à côté.
Quel vertige, ça va pas.
Bon, tu fais ce que tu veux. Hein. Ce qui fait le propre justement d'une œuvre telle que celle-ci, c'est le dessin. Bon, dire que ma mâchoire tombe quasiment à chaque tome serait usurpé. J'en suis à ma troisième opération pour justement pouvoir la remettre à un niveau à peu près normal. Alors j'aimerais que tu m'expliques par quelle sorcellerie Merlin, vu que maintenant je vais t'appeler Merlin.
Ouais, je ferai tout aujourd'hui.
Tu produis ça.
Quelle magie c'est, je ne parlerai pas de ça de magie, je parlerai plutôt de tambouille. Je fais partie de ces dessinateurs qui ont un rapport assez maladif avec leur dessin, assez pathologique. Ben moi, quand j'ai abordé le masqué, j'avais déjà plus ou moins plusieurs images qui se sont imposées, qui se sont affinées à posteriori, mais il y a un certain nombre de chocs visuels que j'avais, ben, ne serait-ce que le contraste entre le personnage encapé et Paris. Ce qui n'est pas usuel dans un contexte européen et français, cette présence du super-héros sur une ville qui est connue de tous, hein, plus ou moins, et ce plaquage, ce collage de cette forme mythologique sur une ville qu'on l'on connaît m'intéressait. Donc j'ai abordé ça comme ça. Et après graphiquement, on essaye de se dépatouiller avec ses défauts déjà, c'est déjà pas mal. Et on essaye de rétrocéder le foisonnement d'idées qui est tapis dans le script de Serge et de lui rendre honneur, un minimum. Donc du coup, on aborde, comme c'était un projet qui abordait beaucoup de choses, qui demandait d'inventer beaucoup de choses, que ce soit au niveau architectural, la notion du Grand Paris est essentielle dans le projet, sa définition graphique, son ampleur, sa taille, sa prise dans l'espace, autant que le personnage en costume, hein, je peux pas dire encore son nom, zut, c'est encore, non, je n'ai pas le droit, le personnage en tenue de super-héros, et là aussi il a fallu le définir pour qu'il s'intègre aussi dans ce contexte-là, qu'il ne semble pas être quelque chose de rapporté et d'artificiel sur un univers européen. Il a fallu définir aussi la stylistique des personnages, enfin des second rôles, voire des troisième rôles, parce que le Paris de Beauregard, le Paris de Beauregard est un Paris qui est en sorte de transhumance temporelle. Il y a une part ultramoderne, il y a une part rétro-future, il y a une part années 30, il y a une sorte de melting pot de tous les âges de Paris. Donc tout ce mixte, il a fallu en prendre parce que ça vient de U et Adia et on a essayé d'en faire quelque chose de consistant et qui homogène. Est homogène. Oui, ça c'était la plus grosse difficulté, de ne pas avoir une sorte de patchwork de choses qui n'ont rien à voir avec l'une avec l'autre et qui semblent accoler de manière artificielle. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais c'était la piste que je voulais suivre.
Alors, au niveau du temps, justement, vu que c'est une série qui a été définie dès le départ sur, on a un premier tome qui sort à ce moment-là, le quatrième et dernier tome sort à tel moment, ça prend combien de temps à peu près pour faire une œuvre par
an ? Bonne question, excellente question. En temps continu, c'est très difficile de comptabiliser. Par album, parce que voilà, on est toujours diverti par plein de choses. Et donc, mais en temps continu, il faut compter à peu près 3 mois et demi, 4 mois de réalisation purement des planches. Mais moi, je travaille dans un protocole comics, c'est-à-dire que je fais la mise en scène, le pencil, ce qu'on appelle le pencil, le crayonné, et je travaille avec un encreur. C'est vraiment le protocole comics qu'on a adopté dès le début de Masqué, parce qu'on est dans cette logique-là de parution rapide. Et c'est aussi l'état d'esprit qu'on voulait par lequel on voulait aborder ce projet en tant que projet comics dans un contexte franco-belge, avec toute l'acceptation de ce contexte-là et même la prise en charge de ce contexte-là, mais aussi avec ce protocole comics, donc de parution rapprochée.
Ok. Serge, j'ai l'impression qu'à travers, j'allais dire, on parle beaucoup justement de la thématique super-héros, mais tu continues en fait à toucher au mythe. C'est vraiment notre rapport, je dirais, en tant qu'être humain, enfin surtout en tant que société, par rapport à la mythologie qu'on est capable de se construire, ou au mythe justement qu'on va inventer et réinventer pour continuer à exister, j'allais dire, dans une société à part entière.
Oui, c'est un. Dans le tome 4, il y a une double page qui probablement marquera, ou en tout cas, on l'a conçue, on est en train de la concevoir, on est en train de la parler, qu'elle soit aussi puissante que possible, qui dit ça, qui établit une sorte de généalogie symbolique depuis les premières figures d'homme-dieu du néolithique jusqu'à nos jours.
Ah, j'allais dire Gilgamesh.
On passe aussi par Gilgamesh, mais on monte encore plus loin, on va plus loin dans le sol. Mais voilà, quand tu verras cette double page, tu auras probablement un sourire, parce que voilà, c'est le moment où, au fait, on dit de façon symbolique ce qu'on veut dire depuis le début. Sur le thème de la mythologie, c'est plus ça va, plus j'ai tendance à voir ça sous la forme d'une métaphore très simple. L'imagination, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que si tu t'en sers pas, il s'atrophie. Or, l'une des caractéristiques de l'imagination, en particulier de l'imagination sociale, c'est-à-dire ce qui permet de se relier au reste des hommes autour de toi, parce qu'ils partagent le même corpus de valeurs symboliques, d'idées de représentation. Le bénéfice de l'imagination, c'est le plaisir de vivre. C'est plus agréable de vivre dans une société où on pense, on croit, où on pressent l'existence de prodiges tout autour de soi, même en sachant qu'ils n'existent pas, juste en les imaginant. Je cite toujours cet exemple parce que ça m'avait vraiment frappé quand j'avais été à New York. Je vivais dans un hôtel à Times Square et en face de... Je prenais mon café en bas le matin sur une terrasse, et juste en face de ma terrasse, il y avait un grand Spider-Man accroché à la façade d'un gratte-ciel. Et tous les gens qui partaient au travail, que ce soit les cadres de Wall Street, les femmes de ménage, les politiques, tout le monde levait la tête, les jeunes, les vieux, les noirs, les blancs, et souriait en voyant Spider-Man. Et c'était avec un sourire enfantin qui durait une demi-seconde. Et les choses m'étaient apparues de façon assez claire à ce moment-là. Ça ne règle rien, un super-héros, ça ne règle aucun problème. Mais simplement, ça, c'est comme les vacances. Ça donne de la force pour affronter ses problèmes. C'est 10 secondes de vacances dans la tête, 10 secondes d'imagination, de rêverie. C'est le plaisir de savoir qu'un album sort le mois prochain, c'est le plaisir d'attendre la suite de l'histoire. Et c'est un plaisir qui diffère plaisir simplement feuilletonnesque qu'on peut avoir sur une série qu'on aime, parce que pour y croire, pour s'y intéresser, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Il faut s'ouvrir à l'esprit un tout petit peu. L'aspect visuel du personnage, si on n'a pas cette capacité-là, on le trouve immédiatement ridicule. Qu'est-ce que c'est que ces capes, ces collants, ces muscles? C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Il faut être dans ce charme-là pour ne pas trouver ça ridicule, et au contraire, pour trouver ça parfois grandiose. Et donc là, c'est une fonction sociale, et une fonction psychique. Et je pense que la vertu mythologique des super-héros, c'est celle-là. On peut faire une généalogie qui va effectivement de Gilgamesh et Hercule jusqu'à Superman, sans aucun problème. Mais cette généalogie, elle n'a pas tellement d'importance en elle-même. Elle dit simplement que de tout temps, dans toutes les sociétés dans lesquelles on a vécu jusqu'à nos jours, il y a eu des personnages comme ça. On se raconte les histoires, et le simple fait de se les raconter, de se les échanger entre nous, augmente le plaisir de vivre. Or, on se trouve ici en Europe depuis une cinquantaine d'années dans une société qui ne sait plus créer ses personnages, qui regarde l'Amérique et maintenant l'Asie créer de tels personnages avec une pointe d'envie, évidemment tout de suite refoulée sous forme de dérision, en disant « Ah, regardez, cette société est un peu naïve dans l'enfance qui a encore besoin de ce genre de choses. » Voilà. Et c'est un peu ces raisins sont trop verts, hein, ça. Et donc, moi, mon boulot de compteur, c'est d'essayer de reforger ce qui nous manque pour que ça circule à nouveau. Simplement parce que ça m'a rendu très heureux quand j'étais gosse. Les versions raffinées du thème par Alan Moore, par les Mac Mignola me rendent très heureux en tant que lecteur adulte. Et il y a un moment où je me dis que c'est pas possible qu'on vive dans une société qui ne peut pas produire ça alors qu'on est sur un sol mythologique vieux de 5000 ans. Donc cette crise qui dure depuis la Deuxième Guerre mondiale, il faut la surmonter. Et de la brigade à masquer, c'est un seul et même effort dans ce but.
C'est marrant, ça me rappelle le début d'un comic Shield qui repart en fait de la fondation de l'univers Marvel et qui débute justement avec cette phrase « Tout débute par une idée ». Et mine de rien, j'avais l'impression qu'avec toi, finalement, on touche l'idée du doigt. Et peut-être même à travers le divin, finalement, on touche l'homme.
Le divin, c'est. Nietzsche disait sujet gros comme le poing. Je ne permets pas qu'on m'adresse des sujets gros comme le poing. Non, c'est un sujet passionnant, mais là, mes réponses sont 1 minute 30 et 1h30. Je vais essayer de tenir simplement la distance. Sur l'idée, je suis aussi. Je viens de la littérature, j'ai presque 50 ans, j'ai quand même beaucoup écrit. Je suis plus en mesure de. Ma manière à moi de retrouver une sorte d'innocence, c'est de ne pas faire semblant de dire au lecteur voilà une histoire. C'est. J'écris pour faire en sorte que les lecteurs qui s'intéressent au processus créatif puissent le voir. Je suis comme Renzo Piano quand il a fait Beaubourg, j'aime bien qu'on voit les os, le squelette, l'articulation, la théorie. Mais si on veut ne voir que le bâtiment, on peut aussi ne voir que le bâtiment. Mais il faut que je mette toujours les deux. C'est ma manière à moi d'écrire.
Alors, par rapport à cette série, vu que vous êtes un peu en train de travailler à la fin, je sais qu'il y a une intégrale de la Brigade Chimérique qui est prévue pour le mois de novembre. Tu as une nouvelle aventure qui est prévue dans le même univers, à peu près pour la même période, je crois.
À peu près, début d'année.
Début d'année. Alors justement, quels sont vos projets, j'allais dire, pour l'après, à tous les deux?
Moi, je vais donc effectivement l'intégrale Brigade. Je sais qu'il y a un troisième tome de l'adaptation en jeu de rôle qui continue chez Sans Détour, qui marche très bien chez eux. Et il y a la traduction américaine de la Brigade qui devrait sortir en octobre. Enfin, un premier tome qui regroupe les 6 premiers épisodes. Chez Arcaïa, presse. En février, sans doute, janvier ou février, la date n'est pas encore complètement fixée. Il y aura L'Homme Truqué, qui sera donc le premier de 3 volumes qu'on fera avec Jess sur les débuts de la période chimérique, 1919, 1920, 1921. Et avec Jess, je fais aussi en 2 volumes dans une nouvelle collection qui sera dédiée spécifiquement aux comics européens, format comics, mais des albums d'une centaine de pages à peu près, 2 volumes sur les origines du Nyctalope, en étant assez proche, en restant assez proche des scénarios originaux de Jean Dreyer, le créateur. On veut essayer de revenir aux sources du personnage, parce que plus je travaille sur ce personnage, et plus je le trouve fascinant, et plus je trouve qu'il représente une rupture, en ce sens qu'il est vraiment un super-héros moderne. Il a vraiment des pouvoirs, un cœur artificiel. Enfin, ça veut dire quelque chose quand Jean de La Hire invente ça en 1910. Il affronte des ennemis récurrents, il voyage dans le temps, il va sur Mars. Enfin, bon, c'est réellement un personnage de super-héros, et c'est absolument fascinant de se demander comment est-ce qu'on peut l'adapter et le faire vivre dans un monde graphique qui est en gros celui d'Alain Blancet, quoi. Voilà. Donc on travaille là-dessus. Et puis Masqué, au-delà des quatre volumes qui forment une histoire complète, qui dès le cours, qui est assez satisfait des résultats pour l'instant, nous a permis d'explorer la piste d'un diptyque ensuite, 5 et 6. Donc, on est en train de regarder ça, mettre en place l'histoire aussi. Voilà. Donc finalement, si tous ces projets vont au bout, il n'y a pas de raison que ça aille pas au bout, l'ensemble de l'univers super-héros français couvrira tout le XXe siècle et jusqu'à nos jours, et comportera assez vite une vingtaine d'albums, ce qui est une surprise, mais une bonne surprise.
Alors c'est assez rigolo, petite parenthèse, parce que l'éditeur Rivière Blanche sort des... Comment dirais-je,
s'intéresse beaucoup
au Nick Talop. J'ai même lu justement la dernière nouvelle de Jean Lahire dans un contexte très collabo, oui. Hein, ouais. Qui était assez intéressante d'ailleurs, d'un point de vue, je dirais, tant stylistique que par rapport à la période. On a vraiment l'impression, en lisant la fin, bon, pour nos lecteurs, on tombe vraiment sur un personnage qui pâtisse complètement. Avec l'Allemagne nazie dans le cadre de la collaboration, on a eu le sentiment que ça tombait, c'était même à la rigueur quelques lignes rajoutées à la fin.
Je sais pas, c'est un personnage, d'une grande complexité, c'est-à-dire que quand on lit, moi j'ai pas lu toutes les histoires de Nicolas, il y en a qui sont extrêmement difficiles à trouver, même quand on fait des recherches approfondies, voilà, très très cher, en édition originale. C'est un personnage qui présente des traits extrêmement contradictoires. C'est à la fois un grand patriote, fer de lance de la France coloniale, mais par exemple, avec une grande morgue aristocratique à l'endroit du peuple, une immense méfiance à l'endroit de tout ce qui est mouvement social. Voilà.
Un petit côté croix de feu, finalement.
Oui, voilà, exactement. Mais c'est quelqu'un qui est fasciné par l'Asie, le Tibet, par les chamans marocains, par les gitans, qui a une identité secrète chez les gitans. C'est un Européen de l'entre-deux-guerres avec tout ça. Ce qui est terrible, c'est que Lahire était un mauvais auteur, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait sa littérature est presque illisible aujourd'hui tellement il écrivait mal. Mais c'est un crève-cœur parce que son univers est d'une grande richesse. Et c'est terrible qu'on puisse y accéder. Voilà. Et une de mes ambitions, au-delà même du chantier supérieur français, la mythologie française et européenne, c'est de donner aux aventures de Nick Talop une forme telle qu'elle puisse être découverte par des lecteurs contemporains, justement sans la barrière de cette très mauvaise littérature qui était la signature esthétique de Jean-Lay.
Bah en tout cas,
Stéphane, tes projets, parce qu'il avait
des vacances, la plage.
Et aller te jeter nu dans la foule actuellement.
Non, pas tout de suite. Il est trop froid.
Mais en tout cas, merci de continuer à nous faire rêver avec, je dirais, ces mythes en construction et en devenir. Et j'allais dire rendez-vous très certainement après l'apparition du quatrième, donc de ce qui ne sera pas dernier tome de la série Masquée.
Merci.